Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies en RDC, les préparatifs de la Journée internationale de la femme avec la 4e édition du Marathon des femmes. Et puis 75 enfants victimes de violences liées au conflit RDC, c'est un chiffre partagé avec nous par l'unité protection de l'enfance de la MONUSCO. Les activités de l'équipe pays seront présentées par nos collègues Geneviève Delenoy pour le pilier développement et puis Christophe Toumba Moudigaï pour le volet humanitaire. Le colonel Félix Prosper Basse, comme d'habitude, nous donnera donc un survol de l'actualité militaire de la semaine. Notre invité aujourd'hui est M. Richard Le Bailly de la Falaise, chargé de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO, qui nous vient tout droit de Goma et que nous accueillons donc ici à Kinshasa. Il est donc à Kinshasa pour un atelier sur la stabilisation. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse. Nous commençons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Information publique donc, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce dimanche 8 mars, la MONUSCO soutient la 4e édition du Marathon des femmes, organisée dans la ville de Kinshasa par l'ONG Free Box Initiative. Placé sous le thème « Éducation pour le bien-être familial », ce marathon a pour but de sensibiliser la femme à la pratique d'une activité physique pour son bien-être mental et physique. Cette marche de santé réunira environ 3000 femmes de toutes catégories confondues, femmes des entreprises, des ministères, des vendeuses, etc. Cette marche partira donc du boulevard Triomphal jusqu'au parking du Grand Hôtel de Kinshasa, où un jeu concours sera organisé. Des prix seront ensuite remis aux différentes gagnantes. Pour plus de détails, une note d'information vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse. Nous signalons aussi la présence dans la salle de la présidente de l'ONG Free Box Initiative, qui pourra donc répondre à quelques-unes de vos questions à la fin de cette conférence de presse. Section protection de l'enfant. Au cours des deux dernières semaines, 75 enfants ont été victimes de la violence liée au conflit en RDC. 67 enfants, tous des garçons, ont été associés donc au groupe armé, se sont échappés ou ont été séparés au nord Kivu, au sud Kivu, au Katanga ainsi qu'en province orientale. Deux jeunes filles ont été victimes de violences sexuelles, une fille et un garçon ont été tués et un autre enlevé par les parties au conflit. Les FRDC ont libéré de détention 3 enfants après les avoir arrêtés pour être associés à des groupes armés. À Boutembo, la MONUSCO a célébré la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats lors d'un atelier sur les stratégies pour prévenir et faire cesser le recrutement d'enfants. Il y avait parmi les 72 participants des autorités militaires et administratives locales, les représentants de la société civile ainsi que des représentants du Parlement des enfants, des ONG nationales et internationales, traitant tous des questions relatives au recrutement des enfants et ainsi que relatives aux questions du DDR. Afin de répondre donc à la protection des enfants pendant les opérations militaires contre les FDLR, la MONUSCO a établi une task force de protection des enfants qui surveillera toutes les violations des droits des enfants et soutiendra donc les enfants qui s'échappent des groupes armés. En outre, des campagnes de sensibilisation ont été menées à travers les radios locales avec des messages appelant donc les groupes armés à libérer les enfants de leur rang. Nous exhortons ainsi tous les groupes armés à libérer et à remettre leurs enfants à la MONUSCO afin qu'ils puissent commencer une vie normale, aller à l'école, apprendre un emploi, laisser derrière eux pour de bon une vie de brousse et cesser de commettre des crimes au nom des commandants des groupes armés. Ce sont des enfants et pas des soldats. Police MONUSCO. Au cours de la semaine du 23 au 28 février, 5 unités de police constituées de la police MONUSCO engagées à l'est de la RDC et Kinshasa ont effectué 79 patrouilles de sécurité autour des installations des Nations Unies, 39 patrouilles conjointes avec la police nationale congolaise, la PNC, 12 patrouilles sur les axes stratégiques, 132 patrouilles simples dans leur zone de compétence en la PNC, 10 patrouilles autour des camps de réfugiés et de déplacés, 15 déploiements préventifs autour des quartiers généraux de la MONUSCO et ses environs, et 12 escortes de civils et de VIP. Enfin, unité d'appui à la stabilisation. Du 3 au 5 mars se tient donc à Kinshasa un atelier co-organisé par le programme de reconstruction et de stabilisation des zones sortant de conflit Starec national et l'unité d'appui à la stabilisation. Il s'agit d'un atelier national. Il s'agit d'un atelier de portée nationale qui vient clôturer une série de 3 ateliers provinciaux qui ont enrichi les stratégies de stabilisation du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale. Pour plus de détails sur cet atelier national, nous donnons donc la parole au responsable de cette unité, M. Richard de la Falaye, qui est notre invité aujourd'hui. Richard, bonjour.
Bonjour, Charles.
Alors, quel est l'objectif de cet atelier et qu'est-ce qui pourrait changer à la fin de cette conférence, de cet atelier qui se tient donc à Kinshasa?
Bien, merci beaucoup pour cette première question. D'abord, si tu le permets, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Richard Le Bailly de la Falaise. Je suis en charge de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO, basée à Goma. Une unité qui couvre les 3 provinces de l'est du Congo, donc province Nord Kivu, Sud Kivu et province orientale. Et bien sûr, nous avons également nos attaches à Kinshasa, là où les choses se passent. Du point de vue du mandat, notre premier mandat est de soutenir le STAREC. C'est l'agence du gouvernement sous le ministère du Plan qui est chargée de mettre en place la stabilisation et la reconstruction dans les zones sortant du conflit. Pour soutenir le STAREC, nous avons la stratégie commune entre les autorités nationales et internationales qui est la stratégie I4S, stratégie internationale de sécurité et de soutien à la stabilisation. Cette stratégie est une stratégie qui prend en compte les dynamiques de conflit dans l'est du Congo et qui s'attaque aux causes profondes du conflit. Et donc, les 3 provinces ont élaboré une stratégie provinciale de conflit, stratégie provinciale de stabilisation, avec un plan d'action prioritaire. Et là, maintenant, nous sommes donc tous à Kinshasa, autour du ministre du Plan, qui hier a lancé cet atelier, accompagné de représentants du gouvernement et avec monsieur Soumaré, le représentant adjoint spécial du secrétaire général. Et ils ont lancé donc hier l'atelier qui a pour objectif que les 3 provinces présentent les conclusions de leur stratégie provinciale de stabilisation, les plans d'action, et ceci nous mènera, si les autorités nationales le désirent, bien sûr, c'est leur volonté, nous mènera à une validation pour ensuite mettre en place cette stratégie avec des projets le plus rapidement possible sur le terrain. Donc voilà un peu les grandes lignes de cet atelier, qui est un travail quand même qui a pris un peu plus de 6 mois par les autorités avec nous pour mettre en place les stratégies pour chaque province. Et nous espérons commencer le plus rapidement possible. Je préfère rester court, Charles, si tu es d'accord, afin de pouvoir prendre des questions si tu le désires.
Éventuellement, oui. Merci pour cette présentation. Nous continuons donc cette conférence de presse avec l'équipe pays. Tout d'abord, Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour, Charles.
Pour le volet développement, je crois que vous avez des informations à partager avec nous sur la Cour pénale internationale.
Oui, merci. Bonjour à tous et bonjour à Goma. Pour la première fois dans l'histoire de la Cour pénale internationale, des réparations collectives vont être octroyées aux victimes. Dans l'affaire, le procureur contre Thomas Lubanga Diilo, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a chargé le fonds au profit des victimes de présenter un projet de plan de mise en œuvre de réparation collective. Ce plan doit inclure une estimation du montant nécessaire à la réparation du préjudice causé par les crimes dont Thomas Lubanga a été reconnu coupable. Le fonds a un délai de 6 mois pour présenter ce plan à une nouvelle chambre de première instance. Pour rappel, le 1er décembre 2014, la culpabilité de Thomas Lubanga pour crime de guerre consistant à avoir procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités avait été confirmée par la Chambre d'appel. La Chambre avait également confirmé sa condamnation à 14 ans d'emprisonnement. UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, comme Charles vous l'a dit, le 8 mars prochain aura lieu la Journée internationale de la femme. À cette occasion, l'UNICEF rappelle l'importance de lutter contre toute forme de violence liée au genre partout dans le monde, comme en RDC. La violence envers les filles et les femmes, ainsi qu'envers les garçons et les hommes, est un problème grave en RDC, en matière de droits humains et de santé publique. L'enquête démographique et de santé 2013-2014 a révélé qu'en RDC, 43% des femmes entre 25 et 49 ans vivaient en couple avant l'âge de 18 ans. En outre, la RDC fait face à un taux de grossesse précoce très élevé. 27% des jeunes femmes de 15 à 19 ans sont enceintes ou l'ont déjà été. Le pourcentage est particulièrement élevé chez les femmes vivant dans les ménages les plus pauvres, 42%. Les femmes continuent à souffrir de formes extrêmes de violences sexuelles à travers le pays, et particulièrement dans l'Est. Pour contrer ces violences et ces inégalités basées sur le genre en RDC, un programme a été lancé en 2014 avec l'appui de l'Union européenne qui vise à amener un changement dans les rapports entre hommes et femmes en RDC et à mettre fin aux violences liées au genre. Dans un premier temps, ce programme est mis en œuvre dans les provinces de Kinshasa et du Bandundu. Il est mené par le gouvernement de la RDC, l'UNICEF, la FAO et la coopération allemande. À titre d'exemple, en 2014, le programme a aidé à élaborer un plan de communication, un manuel de compétences de vie courante pour les écoles primaires intégrant les aspects genre et des outils de collecte de données destinés à évaluer les attitudes, les valeurs et les pratiques liées à l'égalité hommes-femmes en milieu scolaire. Pour assurer une meilleure répartition du pouvoir économique et du rôle social entre les hommes et les femmes, ce programme a également élaboré une cartographie de l'offre et de la demande des ménages en microfinancement. Sur base de cette cartographie, les ménages ont déjà reçu des microcrédits pour les aider dans la mise en œuvre de cette égalité hommes-femmes. Je termine avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, toujours dans le cadre du mois de mars, consacré traditionnellement à la femme. Savez-vous qu'en RDC, les femmes députées nationales représentent environ 8% de l'effectif à la Chambre basse et 5% au Sénat. En comparant les élections de 2006 et de 2011, un accroissement de 1% seulement de présence des femmes a été observé au Parlement. Avec l'appui du PNUD, le Centre de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs, organise ces 3 et 4 mars un forum sur le leadership politique féminin, en RDC bien sûr. Les objectifs sont de comprendre les causes de la sous-représentation des femmes dans les instances politiques et de favoriser leur participation dans les institutions de prise de décision, ceci en prélude aux futures échéances électorales en RDC. La sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision peut s'expliquer notamment par les coutumes qui placent les femmes dans une position d'infériorité et de soumission par rapport aux hommes, le manque de confiance des femmes en elles-mêmes et envers les autres femmes, la pauvreté, le faible niveau de scolarisation. C'est pourquoi ce forum vise à mieux comprendre la sous-représentation des femmes dans les instances politiques de décision, à démontrer que la discrimination de la femme dans la participation aux instances de prise de décision est une violation des droits humains et une violation de la Constitution congolaise, de même qu'elle est un facteur de blocage dans les efforts de développement du pays. En effet, la RDC ne peut pas développer le pays donc en excluant de la gestion les femmes démographiquement majoritaires et qui ont un rôle crucial à jouer dans le développement du pays. Il y aura également des échanges d'expériences avec d'autres pays africains et des actions seront proposées pour que les femmes puissent bâtir un leadership fort en RDC. Au cours du mois de mars, d'autres activités seront organisées par le PNUD pour rendre hommage à la femme et un communiqué de presse est disponible à la fin de cette rencontre sur cette dernière information. Merci Charles.
Merci à Geneviève pour cette information, pour ces informations donc sur le volet développement. Nous passons tout de suite la parole à non pas à Christophe mais à Sylvestre Thomas Moudigaï, notre colloque d'Ocha, qui va donc partager avec nous des informations sur le volet humanitaire de l'équipe pays donc des Nations Unies RDC. Sylvestre, bonjour et merci d'être avec nous. Je crois que vous voulez commencer par des informations sur les conséquences des opérations militaires des FRDC contre les FDLR.
Exact Charles, bonjour d'abord et bonjour aux auditeurs de Radio Capien ainsi qu'à tous les amis de la presse ici présents et présents à Goma également. La communauté humanitaire suit avec attention les développements de la situation humanitaire à la suite de l'offensive lancée la semaine dernière contre les forces démocratiques de libération du Rwanda dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira dans le Sud Kivu et dans la périphérie du parc de Virunga dans le Nord Kivu. Les premières estimations font état de plusieurs centaines de ménages déplacés, dont la vaste majorité l'a été de façon préventive. Au sud Kivu, les familles déplacées se seraient installées dans des écoles, églises et au sein des familles d'accueil. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes dans les zones des opérations. Des mouvements de retour, dont l'ampleur n'est pas encore connue, sont signalés sur le terrain. La communauté humanitaire appelle les parties au conflit à poser nettement un distinguo entre les cibles militaires et les populations civiles. Sur le front du choléra, 2015 démarre sur de mauvaises bases dans la province du Katanga. Plus de 1500 cas enregistrés au cours des 7 premières semaines de cette année dans 15 zones de santé. 30% de ces cas proviennent de la seule zone de santé de Mufunga Sampwe dans le territoire de Mitwaba. Dans d'autres zones de santé telles que Bukama, Butumba, Kabondodian et Kikonja, inquiètent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si la tendance actuelle persiste, 2015 pourrait avoisiner la situation de 2013. Plusieurs zones de santé restent souvent silencieuses. En effet, depuis plusieurs années, le Katanga n'arrive pas à se dépêtrer du choléra et ces trois dernières années n'ont pas dérogé à cette triste réalité. De près de 7000 cas en 2012, on est passé à plus de 9000 cas en 2014 après un pic de près de 14 000 cas. En 2013, année où la province avait enregistré à elle seule la moitié des cas rapportés sur l'ensemble du pays. La maladie a causé au cours de cette période la mort de 843 personnes dans la province. En 2013, la ville de Lubumbashi avait enregistré la moitié des cas de la province. Malgré les efforts des experts impliqués dans la lutte, l'épidémie a du mal à reculer en raison de nombreux facteurs, notamment le pauvre accès à l'eau potable et des installations hygiéniques pas toujours convenables, une grande méconnaissance des règles d'hygiène élémentaires, une faiblesse du système sanitaire, l'absence de partenaires dans la prise en charge et la prévention par manque de financement dans certaines zones. Par ailleurs, l'arrivée à échéance de certains projets humanitaires pourrait représenter un pas en arrière dans la lutte contre l'épidémie. Un plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra en République démocratique du Congo pour la période 2013-2017 a été élaboré et sa mise en œuvre effective nécessite 157 millions de dollars américains pour mener des actions sur 5 axes, le renforcement des mesures de prévention, la mise en place d'interventions ciblées liées à l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, la prise en charge médicale des cas, le renforcement de la coordination et de la communication autour de la lutte contre le choléra. Et juste pour terminer, et si Charles le permet, juste pour le collègue de la presse à Goma, juste présenter notre nouvelle collègue Nadia Bergère qui est présente dans la salle. Elle sera chargée donc de l'information en public Ocha Goma. Et ça sera votre porte d'entrée au bureau de la coordination des affaires humanitaires à Goma. Voilà.
Merci donc à Sylvestre pour ces informations humanitaires. Et comme nous en avons l'habitude, nous allons boucler cette série de présentations ici à la conférence de presse des Nations Unies avec bien sûr le volet militaire et l'homme de service, ou j'allais dire le colonel de service, et bien sûr le colonel Félix Prosper Basse. Colonel, bonjour.
C'est à bonjour vous. Charles, merci. Bonjour à tous. Sans déroger à la règle, Charles, nous allons commencer ce survol de la situation sécuritaire par l'ouest de la République démocratique du Congo. Il faut le rappeler, la situation est stable et aucun incident majeur n'a été rapporté pendant la période sous examen. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises maintiennent une forte pression militaire sur les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur Elera dans les districts de Haut et de Bawele. En Ituri, au sud du territoire d'Irumu, les casques bleus et les troupes congolaises poursuivent inlassablement leurs efforts visant à mettre un terme aux exactions récurrentes des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI contre les populations civiles. Plusieurs attaques, au total 17, ont été lancées par des miliciens du FRPI contre des localités situées au sud du territoire du Rumu pendant la période sous examen. Ainsi, le 24 février 2015, les miliciens du FRPI ont assassiné le chef du village Soukpa, ceci est à 26 km au sud-ouest de Bogoro, pour sa présumée collaboration avec les FRDC. Le 26 février 2015, deux individus ont été blessés, du bétail et des biens domestiques pillés par ces miliciens, au cours d'attaques lancées contre les localités de Bukiringi, c'est à 92 km au sud de Bounia, Kisojo et Katoto, situés respectivement à 15 et 20 km au sud-est de Bukiringi. Dans la nuit du 26 au 27 février, les éléments du FRPI ont fait incursion au village Mukiro, kidnappé une femme qui sera retrouvée morte le lendemain. Les troupes onusiennes et congolaises déployées dans cette région y mènent avec détermination des opérations de bouclage et de ratissage visant à les neutraliser. Le climat sécuritaire au Nord Kivu a été significativement stabilisé par la poursuite des opérations contre les éléments résiduels de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans le territoire de Beni, mais aussi par la réduction de l'activisme des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR dans les autres territoires de cette province. Dans la région de Beni, les unités de l'armée congolaise engagées dans l'opération Sokola 1, qui veut dire nettoyage, avec le soutien de la force onusienne, ont initié depuis le 25 février 2015 l'opération Umoja 3 bis contre les éléments résiduels de l'ADF auteurs de crimes contre d'innocentes populations civiles. En effet, entre les 27 et 25 février, les rebelles de l'ADF ont tué à la machette trois individus dans la sous-localité de Mutwe, située approximativement à 8 km au sud-est de Ndalia, dans la localité de Futabangi. Un autre individu a été victime de ces criminels et sa femme sérieusement battue au village Ndalia, situé approximativement à 8 km au sud-est de la route nationale. Le 28 février, deux corps mutilés par des éléments supposés appartenir à l'ADF ont été retrouvés dans le même village de Ndalia. Des rapports concordants mentionnent le meurtre de trois individus commis le 2 mars 2015 dans une localité située près de Ndalia par des éléments résiduels de l'ADF en fuite vers Eringeti et Mambasa. Sitôt informé, le poste opérationnel déployé à Komanda, accompagné des observateurs militaires de la force de la MONUSCO, a mené des patrouilles intensives de longue portée dans le village concerné, dans le but de dissuader d'autres atrocités contre les populations civiles. Les forces coalisées, MONUSCO et FRDC, ont, dans le cadre de l'opération dénommée Umoja 3 bis, mené avec succès des offensives contre les positions de l'ADF situées dans la localité de Kuelea, à 8 km au sud-est de Kanyama, dans la région d'Ocha, au cours desquelles deux rebelles ont été tués et une arme AK-47 récupérée. Le 27 février, sept éléments de l'ADF ont été tués par les FRDC au cours d'une tentative d'attaque contre les positions de l'armée gouvernementale située dans la localité de Kakuka, en Galanza, c'est approximativement à 4 km au sud-est de Kalukula, sur l'axe Eringeti-Kanyama. En outre, dans le cadre des activités civiles ou militaires, les travaux de réhabilitation des axes routiers Similiki, Mbao et Eringeti-Kainama, effectués respectivement par la compagnie de génie du contingent népalais et celle du contingent bangladais de la force de la MONUSCO, sont arrivés à leur terme pendant la période sous examen. Ces réalisations revêtent une importance majeure dans ce territoire car elles contribuent de manière significative à l'amélioration de la situation sécuritaire dans le secteur, à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi, surtout, favoriser les échanges commerciaux. Dans le territoire de Walikale, de sources concordantes, quatre individus ont été tués le 28 février 2015 et de nombreux civils ont fui vers la localité de Pinga suite aux incursions menées par les FDLR dans la localité de Musanga, située dans la région de Kisima, c'est à 2 km au nord-ouest de Walikale Centre. Du 25 février à ce jour, au chapitre des réductions, nous en avons dénombré 16 en provenance de différents groupes armés qui se sont rendus aussi bien aux troupes de la MONUSCO qu'aux sections DD3R. Il s'agit de 13 FDLR des Forces démocratiques de libération du Rwanda, 3 du groupe Mai Mai Nyatura. Au sud Kivu, le climat sécuritaire est caractérisé par la poursuite de l'opération dénommée Kamilisha Usalama 2, renforcer la paix, menée par les forces onusiennes et congolaises dans le territoire d'Uvira contre les rebelles burundais du Front National de Libération FNL, mais aussi et surtout par les opérations unilatérales initiées par les FRDC contre les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Le Katanga, quant à lui, demeure imprévisible suite aux conflits armés entre les ethnies Luba et Pygmé, particulièrement dans le territoire de Nyunzu. En effet, selon la PNC, la police nationale congolaise, dans la nuit du 28 février au 1er mars 2015, des miliciens pygmées en provenance du village Mukimbo ont attaqué le village Malimba à 30 km au sud de Nyunzu et incendié plusieurs maisons appartenant aux ressortissants Luba. La force de la MONUSCO et les troupes congolaises s'activent à maintenir l'environnement sécuritaire sous contrôle et conjuguent leurs efforts pour contenir l'activisme des belligérants sur les populations locales et mettre un terme à l'insécurité dans cette partie du pays. Le secteur 2, quant à lui, est très calme. Et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1393 armées, dont 332 nocturnes et fourni 65 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Voilà qui boucle donc la première partie de cette conférence de presse des Nations Unies ce jour. Nous ouvrons tout de suite la deuxième partie. Et je m'en vais vous rappeler qu'autour de la table, nous avons bien sûr l'équipe pays représentée par Sylvestre, par Geneviève pour les volets développement et humanitaire. Et puis nous avons bien sûr notre invité qui est Richard de la Falaise, le chef de l'unité à la stabilisation de la MONUSCO. Je suis sûr qu'on vous dit souvent ici, d'ailleurs aux conférences de presse, que les activités de la MONUSCO sont multiformes. Alors si vous avez beaucoup de questions ou quelques questions sur la stabilisation, elles seront les bienvenues, n'est-ce pas Richard?
Tout à fait.